Notre chroniqueur éducation, le prof Sylvain Dancause, est avec nous en studio. Comment qu'il va, le prof?
Ça va bien, merci beaucoup. Et vous, les garçons, ça va bien?
Ça va bien, très ça roule, bien. Ça roule. Je vois même pas le temps passer. Quand tu me dis, il y a la semaine de relâche qui approche, puis tu sais, je suis parent, moi, là, je posais de le savoir, mais ça passe tellement vite que je suis comme, ah ouais, déjà? Ouais, c'est vrai que c'est pas long, hein?
Ah, même principe pour moi.
D'autres, on le sent parce que les élèves sont comme... C'est un temps de l'année, là, l'étape 2 vient de finir. Il y a comme un trou de deux semaines avant relâche, on dirait, là, un peu, où est-ce que les élèves ont beaucoup d'énergie. Et voilà. Alors, on s'amuse bien et on pratique nos aptitudes de gestion de classe.
Non, en effet, mon Edou me racontait qu'hier, dans son cours de science, il y a un jeune qui s'est endormi. Fait qu'ils se sont amusés à l'enterrer de plein d'objets.
Hey, faut que tu dormes puis pas à peu près quand tu te fais enterrer d'objets dans la classe.
Exactement. Et sous l'approbation du prof qui trouvait ça très drôle également. Fait que les kids étaient heureux rendus à la maison.
Ben, ça me rappelle un souvenir. J'avais déjà eu un kid comme ça qui s'est endormi, mais solidement.
Oh oui.
Puis on avait fait une joke. J'avais dit aux élèves, on va sortir de la classe, on fait pas de bruit, on ferme la porte, on attend dans le corridor, voir quand est-ce qu'il va se réveiller, puis... Fait que finalement, à un moment donné, il s'était rendu compte, là, mais ça avait quand même pris un 5-10 minutes avant qu'il se réveille et qu'il se rende compte que les lumières étaient fermées, qu'il n'y avait plus personne dans la classe. Il pensait que le cours était fini. Puis on était comme cachés dans l'interlab. Là, fait que,
oui. Ah, c'est bon.
Fait que ça arrive de temps en temps. Il y en a une couple qui manque de sommeil un peu. Là.
Exactement. Ouais.
On a appris, prof, que dans l'affaire de l'école Bedford, les 11 enseignants réprimandés sont toujours payés. Là, nous, on est parents. Ben, Jeff et moi, pas Max, encore, à ce qu'on sache. Mais on n'est pas enseignant-enseignante, on n'est pas dans le domaine de l'éducation. Es-tu d'accord avec nous que ça n'a aucun sens ou tu penses le contraire puis c'est normal qu'ils soient encore payés?
Ben, je suis un peu partagé par rapport à ça. J'ai pas assez d'informations. C'est comme tout le monde, là, j'ai entendu parler de Bedford. J'ai même lu le rapport qui avait été déposé. C'est toujours délicat de suspendre quelqu'un sans salaire. Moi, j'essaie de... C'est sûr que la situation n'est pas comparable, mais admettons que ça m'arrive, que je fais quelque chose, puis que mon employeur décide de me suspendre, puis que je suis pas trop d'accord avec ça, dans le sens où c'est sûr que je peux me défendre, mais il reste que je vais probablement m'endetter quand même pas mal. Puis si j'ai raison, c'est sûr qu'après ça, je vais poursuivre le centre de service scolaire.
Ouais.
Pour dommages et intérêts, tu sais. Fait que je le sais pas. Est-ce qu'il devrait être suspendu sans solde? Est-ce qu'on a assez de preuves? Ça devient difficile à dire.
Puis ça peut pas être du cas par cas?
Ben, je pense que ça devrait être du cas par cas. Okay. Après ça, légalement, chaque centre de service scolaire a un ou des avocats. À ce moment-là, c'est une décision des ressources humaines. Est-ce qu'on suspend ou non l'enseignant, l'enseignante ou l'employé quelconque, puis est-ce qu'on le suspend avec ou sans salaire? Puis c'est quoi, si on le suspend avec ou sans salaire, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver par la suite? On va avoir une poursuite par la tête ou non? Ça coûte combien? Fait qu'il y a toujours une question d'avantages et d'inconvénients. T'sais, par rapport à l'aspect juridique, je ne suis pas très ferré. Fait que c'est difficile à dire, mais si on regarde ça, pour quelqu'un qui est de l'extérieur qui regarde ça, c'est sûr que je comprends le réflexe de dire... Ben voyons, ça n'a pas de bon sens. T'sais, avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a lu, que ces gens-là soient à la maison grassement rémunérés, il me semble que ça n'a pas de bon sens. Puis en même temps, ben ces gens-là auraient dû être suspendus il y a assez longtemps. Mm-hmm. Comment ça se fait que ça a pris 6, 7, 8, 9 ans?
Ça devrait être fini, ce dossier-là.
Ça devrait être fini. Il y a du monde qui a dormi sur la Switch, puis du monde qui est en position de décider, qui a dormi sur la Switch. Moi, je blâme beaucoup le centre de services scolaires dans cette histoire-là. C'est pas ce que le rapport qui vient tout juste de sortir la semaine passée a tendance à faire. On blâme aucunement le centre de service scolaire, qui pour moi c'est un non-sens. Mais voilà. Fait que je suis un peu partagé par rapport à ça. Puis tu as raison, je pense que c'est du cas par cas. Là.
Est-ce que le syndicat mène trop large? Parce que là, je te pose la question parce qu'à chaque fois qu'on parle de ça, de profs suspendus à la maison, payés ou n'importe quel autre employé de l'État, on dit toujours c'est de la faute du syndicat, c'est le syndicat qui emmène trop large. Puis là, on est mains liées. Tu es d'accord avec ça? Moi, j'ai tendance à être plus zone grise là-dessus.
Ben, je suis un peu comme toi. Le syndicat n'empêche pas un employeur de suspendre un individu ou de mettre des blâmes sur un individu. À un moment donné, puis là, je blâme pas les directions d'école, puis c'est un peu ça que le rapport Bedford, qui vient tout juste de sortir, là, des deux personnes qui sont allées analyser la situation, dit bien, ça prend de l'imputabilité pour les directions d'école. Je comprends, puis après ça, ce qui est sorti dans les journaux récemment, c'est qu'il faudrait évaluer les enseignants aux 2 ans. Dans les faits, moi, je devrais être évalué à chaque année. Ben fait, oui. quand je lis dans le journal, on devrait évaluer les enseignants en 2 ans, je dis, il y a un peu une déconnexion.
Ouais.
Mais en même temps, je peux vous dire, les gars, ça fait une couple d'années que j'ai pas été évalué. Puis pas parce que j'ai des mauvais boss ou pas parce que je suis trop bon, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Je veux dire, d'évaluer un individu sur une base régulière, ça prend du temps. Puis tu peux pas faire ça n'importe comment sur le coin d'une table, sur une napkin, puis dire « Hey, je vais t'évaluer aujourd'hui, ça me tente, là, on va se rencontrer 10 minutes, on va jaser de ton année scolaire, puis c'est quoi tes... »
On est sur la base de pas de nouvelles, bonnes nouvelles? Tu sais ce que je veux dire, dans le sens que si t'es pas un cas à problème, on va pas te rencontrer?
Ben, je pense que c'est un peu ça, que c'est un peu ça la déduction, dans le sens où si moi j'étais directeur, ben tu regardes ton staff, puis tu te dis « Ben, dans mon staff, je vais dire n'importe quoi, j'ai 100 d'enseignants. Bon, j'en ai 3 que le téléphone sonne assez souvent. » Il y a des parents qui appellent, il y a dit bon, tu sais, tu connais
ton staff. Pour que je m'en préoccupe.
Pour que je m'en préoccupe. Ben eux, je pense qu'il devrait y avoir un suivi serré. Puis oui, tu devrais aller faire un tour dans leur classe une fois de temps en temps. Puis oui, tu devrais les rencontrer. Puis oui, il devrait y avoir une évaluation systématique, cadrée, puis tu sais, organisée qui se fait, tu sais, dans une base d'évaluation formative, puis d'aider l'enseignant à ce qu'il devienne meilleur. Parce que des fois aussi, ça part pas toujours de mauvaises intentions. Des fois, ça part d'un manque d'expérience, une couple d'erreurs, puis la personne veut vraiment s'améliorer. Mais il y en a aussi qui veulent rien savoir. Tu sais, ils ont l'impression de détenir la vérité, puis ils veulent pas changer leur pratique, alors que la pratique est problématique. Mais là, à ce moment-là, c'est là que des mesures disciplinaires devraient s'appliquer. Puis là, le directeur d'école doit faire affaire avec les ressources humaines du centre de service scolaire. Puis tu sais, dans le cas de Bedford, on l'oubliait un peu, mais l'automne passé, quand ça a sorti, là, les gens en place n'ont pas trop parlé parce qu'il y a toujours le devoir de loyauté, puis tout le monde marche sur des œufs, tout le monde a peur de parler. Mais l'ex-directrice qui était à retraite était sortie dans le Journal de Montréal. Elle avait été là de 2017 à 2020. Puis elle l'a clairement dit dans le Journal de Montréal, « J'ai dit qu'il y avait un problème dans mon école. J'ai fait des demandes pour qu'on m'aide à gérer le problème. Puis on m'a dit de me calmer un peu. Je paraphrase pas.
Ouais, mais quand même.
Mais on m'a dit un peu, prends ton gaz égal. Le sujet est délicat parce que, bon, on est super après pourquoi le sujet était délicat.
Parce qu'il est islamiste, etc.
Fait que là, les mesures disciplinaires, OK, on va peut-être faire un peu des avertissements. Puis on verra ce que ça donne, les avertissements. Puis là, les mesures disciplinaires, on va prendre notre gaz égal pour le moment. T'sais, elle est sortie, puis elle l'a dit que 2017 à 2020, elle n'a pas été backée par son centre de service scolaire. Fait que, à un moment donné, il y a une job aussi de ressources humaines. Fait que c'est dans ce cas-là, puis j'étais un peu surpris quand j'ai lu ce qui est sorti la semaine passée, qu'il n'y a pas d'imputabilité pour le centre de service scolaire. T'sais, c'est la faute de la direction d'école, puis c'est la faute des enseignants. Oui, en partie, mais la directrice qui est sortie qui nous apprend que ben, elle n'a pas été backée. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas te battre tout seul contre le système. Là.
Puis pourquoi on protège le centre de service scolaire de même? Qui a intérêt à le protéger?
C'est une bonne question. Moi, j'ai trouvé ça un peu pénible de voir la face de la directrice générale du Centre de services scolaires de Montréal la semaine passée nous dire avec un beau grand sourire « On accueille le rapport Bedford favorablement, ça nous fait plaisir de lire ça, on va mettre en place les mesures qui nous sont soumises. » En juin passé, il y avait une directrice adjointe à l'école Bedford. Ben, ils ont aboli le poste, puis ils ont dit qu'il n'y aura pas de directrice adjointe l'an prochain à l'école Bedford. La directrice va être seule. Là,
parce qu'il n'y a pas de besoin.
Il n'y a pas de besoin. Là, tout d'un coup, le rapport, c'est comme « Ah oui, on va suivre, on va libérer nos directions de leurs tâches administratives pour qu'ils puissent avoir le temps d'évaluer leur personnel. » Il y a comme un double discours. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez aussi de Marois Risky, qui était sortie contre la DG du Centre de services scolaires à Montréal pour dire qu'elle disait... le tout et son contraire.
Elle parlait des deux côtés de la bouche.
Elle parlait des deux côtés de la bouche selon qui est interviewé, puis quand est-ce, puis à quel moment, tu sais. Puis elle disait qu'elle savait pas trop ce qui se passait, mais elle avait le rapport entre les mains. Fait que, tu sais, moi, j'ai un peu de la difficulté. Pourquoi? J'ai pas la réponse. Mais bon, en lisant le rapport, ce qu'on se rend compte, c'est que la direction scolaire est imputable, donc le directeur ou la directrice d'école, et le staff est imputable, mais... Ça a l'air que les ressources humaines ne sont pas tant.
Je veux te partager mon hypothèse. Je pense que le gouvernement protège trop les structures qu'ils ont mises en place. Les centres de services scolaires, ils ont changé les commissions scolaires pour centres de services scolaires. Santé Québec est rendu la plus belle chose au monde. Mobilité Infra est à veille de le devenir aussi. T'sais. On met une structure en place, il ne faut absolument pas y toucher parce qu'on ne s'est pas trompé. Mon hypothèse, qu'est-ce que tu en penses?
C'est possible. Si c'est ça, c'est une maudite mauvaise raison. Puis en même temps, les DG de centres de services scolaires sont mal placés pour s'avancer aussi sur la place publique, si on parle de l'ensemble du territoire, parce qu'avec cette loi-là que tu parles, qui était la loi sur la gouvernance scolaire, la loi 40, puis la loi 23 par la suite avec l'Institut national d'excellence en éducation, puisque M. Drainville l'a fait par la suite, ils n'ont pas vraiment le luxe d'aller contredire le gouvernement ou de s'avancer trop sur la place publique, parce qu'ils sont nommés, ces gens-là, maintenant, par le gouvernement.
Prof d'en cause, selon un nouveau sondage, les Québécois, Québécoises sont tannés de plus en plus du système de l'école à trois vitesses. Petit rappel, quand on parle des trois vitesses, on fait référence à l'école privée, programme particulier sélectif dans les écoles publiques et au programme régulier du réseau public. Est-ce que ça te surprend, ces résultats-là?
On pourrait même ajouter une quatrième vitesse qui est l'adaptation scolaire.
En plus?
Ça me surprend pas tant. C'est le fruit, je pense, d'une évolution collective par rapport à tout ça, à ce marché scolaire-là. Tu sais, c'est un marché scolaire qui est un peu spécial. Ça existe dans d'autres pays, mais moi, je vais toujours me rappeler d'un de mes bons amis qui a habité longtemps en Angleterre puis en Belgique, qui est parti avec ses enfants quand il était très jeune, puis a habité là-bas, puis il est revenu. Il y a quelques années à Montréal, puis ses enfants étaient rendus d'âge secondaire, mais il n'avait pas vécu le système scolaire québécois, tu sais. Puis quand il est revenu, la première affaire qui l'a marqué, c'est « Hein, faut que je magasine une école pour mon enfant.
Ouais. »
Puis « Hein, faut que je magasine un programme pour mon enfant. Ouais. » Il y a un double magasinage.
Puis là, c'était pas si pire parce qu'il était d'âge secondaire. Moi, d'avoir fait ça avec mes deux gars en cinquième année, j'en revenais pas. Je me disais « Faut qu'ils choisissent un programme dans lequel ils vont être bien à 17 ans. Ouais. » Ils ont tout de même bien 10 ans. Là. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont être à 17.
C'est un peu surprenant, ce marché scolaire-là. Puis c'est développé de façon fulgurante depuis à peu près 25 ans. Les premières fois, je pense qu'on a entendu parler un peu de ce problème-là, c'était en 2015. T'sais, les premiers articles qui ont commencé à sortir sur le fait que, bon, OK, l'école privée subventionnée, c'est-tu vraiment, bon, l'idée du siècle? Est-ce que c'est encore valable? Parce que, bon, ça date de la réforme parent des années 60, puis c'est le compromis qui avait été fait avec le clergé quand on a décidé de créer les polyvalentes. Fait qu'en tout cas, il y a un historique à ça qui fait qu'on a gardé les subventions privées, mais dans l'idée initiale du rapport parent, c'était pas ça dans les années 60. Fait qu'il y a je pense qu'il y a une évolution, puis on a entendu parler aussi de plus en plus avec les années. Il y a École Ensemble qui est un mouvement qui est apparu, qui a proposé de financer à 100% l'école privée, mais puis d'en faire une école publique, mais avec certaines balises, dont accepter tous les enfants sur le territoire en question. Fait que, tu sais, ça a fait son chemin tranquillement, pas vite. Vois-tu, à Montréal, avec ce qui s'est passé, on parle de Bedford tantôt, on commence aussi à se poser des questions. Tu sais, les grands collèges secondaires privés francophones, ben c'est beaucoup des gens pareils qui se ramassent ensemble. Puis tu as un flot d'immigrants qui se ramassent dans les écoles publiques de Montréal. Ça crée des ghettos. Ça crée des écoles où il n'y a pas vraiment d'appropriation par rapport à la culture québécoise. C'est comme noyé à travers tout ça. Fait qu'il n'y a pas de mixité dans les écoles. Puis là, à Montréal, on n'en parlait pas, mais on commence à en parler depuis à peu près 2 ou 3 ans. C'est un discours qui est nouveau. Puis même dans les grands médias comme La Presse, on a commencé à mettre cette hypothèse-là, de dire ouais, « vivre ensemble, ça se fait-tu vraiment dans des écoles séparées? » Je pense qu'il y a une évolution par rapport au discours, puis je n'étais pas si surpris que ça de lire ça.
Serais-tu mieux si le système était entièrement public?
C'est très difficile de répondre à cette question-là tant qu'on ne l'a pas vécu.
Ouais.
T'sais, ça reste des hypothèses. Moi, je pense que oui. Le plan d'École Ensemble, je le trouve intéressant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Stéphane Vigneault qui est le coordonnateur du mouvement. Moi, en ce qui me concerne, c'est probablement la meilleure proposition que j'ai lue. Elle n'est pas parfaite, mais il propose dans son plan, puis là, je résume grossièrement, là, mais il propose de financer les écoles privées, que les écoles privées acceptent les élèves qui sont aussi en difficulté, donc il n'y a plus de tri à l'entrée. Puis en contrepartie, les écoles privées, ben, qui deviendraient publiques parce qu'ils seraient financées à 100%, celles qui acceptent ça, auraient la possibilité de garder leur gouvernance. Donc, n'auraient pas une gouvernance assujettie au centre de services scolaires, mais auraient leur propre gouvernance, donc comme ils ont... elles ont actuellement.
Okay.
Fait que ça peut être intéressant. Je sais pas. Ça, aussi, il y a dans le plan, il y a une liberté de choix qui reste parce que, bon, ça, on pourrait argumenter aussi là-dessus. Tu vois, un système comme la Finlande, le système privé n'existe pas. Ici, on n'irait pas jusque-là, je pense. À ce moment-là, ça serait un système privé, mais comme en Ontario, qui est strictement privé dans le sens où il n'y a pas de financement de la part du public, puis on a une école qui est privée. Ouais. Fait que, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça viendrait diminuer le décrochage? Est-ce que ça favoriserait la mixité? Est-ce que ça serait un flop? Ben, c'est toutes des questions légitimes. Puis je pense que quand on argumente avec ça, ça fait des discussions très intéressantes. Il y a des points pour, il y a des points contre. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a plus de points pour que de points contre. Mais il y a des points des deux côtés, là.
Allez, je veux terminer, prof, avec une question peut-être niaiseuse, mais Dans la salle de prof, là, jasez-vous de choses de même en français? Jasez-vous de la situation de l'école Bedford, du système à trois vitesses, où vous parlez comme du Canada qui a battu la Finlande hier à la Coupe des Quatre Nations? Ça jase-tu entre profs dans la salle de prof de sujets d'actualité d'éducation?
Ben oui, c'est sûr. Tout dépendamment avec quelle gang tu tiens. Ouais. Là, fait que les sujets changent selon les gangs. Mais oui, c'est tous des sujets qu'on aborde, qu'on jase dans l'informel, dans la salle des profs. T'sais, une salle de profs comme nous autres, la salle de profs, moi je suis la salle de profs du troisième étage de mon école. On est 50 dans la salle.
Okay.
Il n'y a pas de paravent. Il y a de la discussion, il y a des coins où c'est plus tranquille, il y a des coins où ça parle très fort, il y a différents sujets, puis oui, ça parle de sport, ça parle des arts,
de
ça parle de financement, ça parle de...
Comme à notre machine à café aussi.
Ouais. Voilà,
ça parle
le même
de
genre
bataille au hockey, de Super Bowl.
On parle aussi de nos élèves, mais ça, on fait attention parce qu'il y a un aspect confidentiel là-dedans.
Clairement.
Mais c'est sûr que dans l'informel, on va jaser de nos élèves, puis on va se dire hey, bon, un tel, comment il va dans ton cours, ça va-tu mieux? J'ai appelé ses parents. Fait qu'on va jaser aussi de nos élèves. Mm-hmm. Il y a des cas d'élèves, entre guillemets, qu'on va régler aussi dans la salle des profs pendant une période libre ou entre deux cours.
Notre chroniqueur en éducation, le prof Sylvain Dancause, merci pour ça ce matin.
Ça me fait plaisir, messieurs.
À bientôt.
Salut.
Bonne journée.
On s'arrête 2-3 minutes.